venons à toi ce matin en reconnaissant ta position élevée, mais en voulant contribuer à ce que tu sois encore élevé, non seulement dans les cieux, mais également dans nos cœurs. Tout comme le font les quatre êtres vivants et les 24 vieillards, nous venons reconnaître ta seigneurie sur nos vies. Toi et rien que toi. Que quelqu'un ce matin soit visité par la présence de Dieu, que toutes les inquiétudes, les interrogations, le questionnement soient dissipés dans la présence de l'Éternel. Que quelqu'un ce matin qui est venu avec un cœur lourd, des fardeaux, des chaînes, des liens, des interrogations, des peurs, des craintes, que ce matin tu puisses recevoir celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Reçois le repos, reçois le repos, reçois le repos, reçois le repos, reçois le repos. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit. Que le shalom de l'Éternel remplisse nos cœurs maintenant. Le shalom, 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 shalom. Nos cœurs sont ouverts devant toi ce matin. Déverse-y ta semence, que celle-ci produise du fruit et que ce fruit soit pour la gloire de ton nom. Et nous voulons nous lier avec tous ceux et toutes celles dans la congrégation du ciel qui reconnaissent ta grandeur. Et dire que saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Nous voulons prendre nos couronnes et les jeter à tes pieds également. Aucune gloire à nous, mais toute la gloire à toi. Et comme Jean, nous voulons dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Nos cœurs sont disposés et nous reconnaissons que ce matin, tu as une parole pour nous. Nous voulons la recevoir dans le nom de Jésus. 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 Avant de prendre place, pendant que nous sommes encore debout, nous allons lire ce texte dans le livre de Ruth, chapitre 1. Nous allons lire les versets 16 et 17. Ruth répondit : « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, où tu demeureras, ton peuple et ton Dieu, où tu mourras, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Sur ce texte que Dieu m'avait mis à cœur de prêcher lors d'un mariage tout récemment, je ne faisais que continuer à découvrir des trésors cachés. Après l'avoir lu et relu, il y a encore d'autres éléments qui reviennent à l'esprit et qui nous montrent que c'est peut-être un passage sur lequel nous devons nous pencher en ce moment. Et ce matin, je veux simplement que tu te poses la question et que tu répètes à vrai point, suis-je loyal ? Suis-je loyal ? Suis-je loyal ? Je veux parler de loyauté. Et pour comprendre la loyauté, c'est le texte qui semble nous éclairer sur ce que peut représenter la loyauté et à quel point elle peut être importante au cœur de Dieu. La loyauté retenez seulement que c'est un engagement. C'est un engagement fort. Un engagement fort et inébranlable. Une allégeance ou une fidélité envers quelqu'un ou envers quelque chose. Et ça implique de rester constant, ça implique de rester dévoué, même dans les situations difficiles et complexes. Même dans les situations difficiles et complexes. La loyauté inclut un sentiment de confiance, de fiabilité et de dévouement envers les personnes ou la cause à laquelle on est loyal. Tu peux être loyal vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une cause, vis-à-vis d'une mission. La loyauté est souvent démontrée à travers des actions. Elle est démontrée à travers nos pensées, à travers nos émotions, qui privilégient et soutiennent de manière constante, je reprends, de manière constante, le bien-être et les intérêts de l'objet de la loyauté. C'est-à-dire, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est une mission, si c'est une cause, eh bien, de manière constante, nos pensées, nos actions, nos émotions privilégient et soutiennent le bien-être et les intérêts de cette personne ou de cette mission. Le contexte dans lequel nous sommes, dans le livre de Ruth, c'est simplement un homme qui se trouvait pourtant à Bethléem, qui signifie la maison du pain, et dont la Bible nous dit qu'à cet endroit-là, il y a eu une famine. Et probablement à cause de la famine, lui, son épouse et ses deux fils ont quitté la maison du pain. Permettez-moi de commencer à dire qu'il ne faut jamais prendre une décision permanente dans des circonstances temporaires. Ce qui est en train de t'arriver est passager, ne prends pas une décision permanente à cause d'une situation passagère. Et comme je l'ai souvent dit également, ne prends pas une décision importante à long terme lorsque tu es fâché ou trop content. Lorsque tu es trop content, tu vas te retrouver comme le roi Hérode, dire que tout ce que la fille qui danse devant lui peut lui demander, eh bien, lui sera accordé. Tu es trop content. Ne prends pas de décision à ce moment-là. Tout comme tu peux être trop fâché et à ce moment-là, tu prends une décision, je ne lui parlerai plus, alors que à cette personne ou à cette cause est attachée ta bénédiction. Mais Élimélec prend la décision de prendre sa femme, ses deux fils, de quitter la maison du pain à cause des circonstances douloureuses. Ne laisse pas non plus les circonstances douloureuses guider la direction ou la destinée de ta vie. Il se peut que ces circonstances douloureuses aient été permises et orchestrées par le Dieu qui connaît les paramètres des temps et des circonstances et qui règne sur les temps et les circonstances. Ils arrivent à Moab. Au départ, c'était simplement pour y séjourner, de passage, mais plutôt que de simplement être en visite, ils ont élu domicile. Il ne faut jamais élire domicile dans le confort. Pourquoi ? Parce que le confort est passager. N'élis pas de domicile alors que tu avais pris une décision temporaire et passagère. Si tu avais décidé pendant un moment donné de quitter et de te rendre quelque part, pose-toi toujours la question de savoir est-ce la volonté de Dieu. C'est pourquoi ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. En tant que citoyen du ciel, notre allégeance première vient de Dieu. La question est de savoir est-ce que tu es parti là où tu es parti par la direction de Dieu ? Ou simplement parce qu'il y avait la misère autour de toi. Est-ce que tu fais ce que tu fais parce que Dieu t'a dit de faire ce que tu fais, ou bien tu le fais parce que tout le monde le fait, et tout le monde est en train d'aller à Moab? Arrivé à Moab, Élimélec meurt. Naomi devient veuve. Elle reste avec ses deux fils. Ses deux fils sont à Moab, et là, ils prennent une décision permanente. Ils épousent des Moabites. Ils prennent Orpa et ils prennent Ruth. Deuxième erreur, et il se marie avec ces femmes qui ne faisaient pas partie du covenant, de l'alliance que le peuple d'Israël avait avec Dieu. Les Moabites sont issus de la relation incestueuse entre Lot et sa fille aînée. De cette relation incestueuse est né Moab, et d'où nous avons les Moabites aujourd'hui. Ces deux enfants, Mahlon et Elkron, finissent par épouser ces Moabites. et la tragédie frappe encore à la porte. Les deux meurent et laissent leurs épouses veuves. Orpa et Ruth sont maintenant veuves et leur belle-mère, Naomi, est également veuve. Naomi décide que, comme j'ai appris qu'à Jérusalem, à Bethléem, les choses sont en train de mieux aller, la famine est terminée, a disparu, maintenant je vais rentrer. Elle dit à ses belles-filles, je n'ai rien à vous offrir. Et même si aujourd'hui je me mariais, je mettais au monde, est-ce que vous attendriez que ces enfants soient grands pour les épouser? Non. Après tout, vous êtes de Moab, restez à Moab. Moi, je vais rentrer chez nous, à Bethléem. Et après une discussion, Orpa décide finalement de rester, de s'en aller. Elle est attachée à ceux qui représentent son héritage. Mais Ruth fait cette déclaration que nous venons de lire. Ruth regarde Naomi droit dans les yeux et se rend compte que Naomi n'a plus rien à lui donner. Ruth réalise que Naomi, dans un contexte comme celui du Congo, peut être traitée même jusqu'à l'extrême. On peut dire d'elle qu'elle est sorcière. Comment ton mari est mort et tes deux fils sont morts? Vous avez tout perdu. Et puis, en plus de ça, vous êtes étranger. Mais Ruth, plutôt que de se fier aux apparences extérieures, plutôt que de penser que ce qui est à l'extérieur définit ce qui est à l'intérieur, elle a dit non. Je reconnais que quand je me suis marié à Mahlon, quand j'ai pris cet engagement-là, en fait, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose dans la lignée de mon mari et je veux rester fidèle à cette alliance qui existe entre lui, son peuple et son Dieu. C'est pourquoi elle fait la déclaration à Naomi. Bien qu'il n'y a rien de matériel, il n'y a rien de financier, il n'y a rien de social, il n'y a rien de politique, aucun avantage, là où tu iras, là où tu demeureras, ton Dieu, là où tu mourras, que Dieu nous donne des nouveautés avec un tel engagement. Beaucoup de gens parlent de mariage, et souvent on parle de mariage quand on voit un intérêt quelque part. Je bénis le Seigneur que nous commençons le premier jour du mois d'octobre. Le mois d'octobre a une grande signification pour mon épouse et moi. Il y a 27 ans maintenant, que nous nous sommes unis devant Dieu, devant son Église et devant les hommes. Et ce qui m'intéresse le plus dans cette alliance que nous avons eue, c'est que tout ce que vous voyez de moi aujourd'hui, elle n'avait rien vu de tout ça, avec ses yeux physiques. Je n'étais pas comme je suis, aussi, vous voyez là-bas, maigre comme un clou, étudiant que j'étais, avec un maigre revenu et un salaire, tout le monde pensait qu'un jour elle épouserait un ministre. Tout le monde s'attendait que ce soit un ambassadeur, une personnalité, un politicien, quelqu'un de très élevé. Mais elle n'a pas épousé selon les yeux, elle a épousé selon la foi. Et quand bien même tout le monde s'attendait à un ministre politique, Dieu lui a donné un ministre spirituel, un homme de Dieu. Et aujourd'hui, en toute humilité, je peux dire qu'elle ne peut pas se plaindre. Est-ce que tu te plains, chérie? Non. Parce que quand on voulait qu'elle épouse une de ces personnalités, vous savez qu'est-ce que les gens étaient en train de chercher. Toutes ces choses-là que les gens cherchaient, Dieu les lui a données et en avantage d'abondance. Pourquoi? Regardez, elle s'est attachée au Dieu qui lui donnait un homme et plutôt que l'homme que les hommes voulaient chercher pour elle. Et dans ce contexte, vous voyez que quand Ruth a pris cette décision, dans le thème, les différents thèmes qu'il y a dans ce livre, il y a la fidélité. Dans les différents thèmes, il y a la rédemption, je vais en parler tout à l'heure. Les Moabites n'étaient pas dans cette alliance. Mais Dieu est capable de repêcher quelqu'un qui ne méritait pas et dire, voilà, parce que moi je décide, tu mérites aujourd'hui. Et un autre thème, la providence divine de Dieu. Il a orchestré les circonstances pour qu'elle puisse concourir au bien de ses enfants. C'est pourquoi, quelles que soient les situations que tu traverses, rappelle-toi du Dieu qui est le metteur en scène. Le metteur en scène, quand vous regardez le film, personne ne voit le metteur en scène, personne. Mais le film n'aurait pas existé si le metteur en scène n'était pas là. Le metteur en scène, c'est celui qui dit à l'acteur, tu vas déposer ça, tu vas monter, tu vas descendre. Et comme les Quinois disent, le gangia film ne meurt jamais. Pourquoi? Parce que le metteur en scène sait comment planifier tous les scénarios et toutes les scènes pour qu'à la fin, celui qu'on pensait qu'il allait mourir, Je me souviens quand on regardait encore Dallas à l'époque, JR Ewing est en train de mourir, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, tout le monde veut voir la suite de cet épisode-là. Le metteur en scène est calme. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien comment est-ce qu'il a planifié toutes les scènes pour qu'à la fin, le héros puisse rester en vie. Sache que ton Dieu est en train de planifier toutes les scènes et les situations à ton avantage. Le pasteur André nous a dit le dimanche dernier qu'il s'est assis, qu'il a pensé, qu'il a réfléchi et il a fait des projets. Et quand il fait ses projets, c'est comme un metteur en scène. Et pendant que même toi-même tu es en train de t'inquiéter, tu as oublié qu'en fait il y a quelqu'un qui est en train de diriger tous les événements. Des individus ordinaires peuvent jouer un rôle dans un plan plus vaste de Dieu. Ne te préoccupe pas du fait que tu n'es pas un grand nom à Goma, ou au Nord Kivu, ou à l'Est, ou au Congo. Ne sois pas inquiet du fait que ta famille n'est pas influente. Ne sois pas inquiet du fait que vous n'avez pas beaucoup de moyens. Ne sois pas et ne te préoccupe pas du fait que vous n'avez pas accès là où les autres ont accès. Parce que Dieu a tendance à se glorifier justement dans les choses que les hommes ont rejetées, lui, il les récupère. Ce qui fait que si tu n'avais pas un nom, Dieu peut faire de toi et te donner un nom. C'est ce qu'il a fait à Abraham. Je rendrai ton nom, dis à ton voisin, il rendra ton nom grand. Et demande-lui, es-tu loyal ? Es-tu loyal ? Les leçons apprises, je vais vous en partager quelques-unes. La première leçon, bien évidemment, c'est la loyauté. Proverbe 26 dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Beaucoup de gens proclament leur loyauté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Aime les autres, suis courageusement là où Dieu nous guide. Tout le monde proclame sa fidélité et sa bonté. Et depuis que nous sommes dans le ministère, nous avons vu des vertes et des pas mûres. Des gens qui se sont engagés et après qui ont disparu. Au début, ils venaient aux deux cultes, anglophones, francophones, et puis à un moment donné, disparu, on ne le voit plus. Au début, il était en train d'aider le protocole, il mettait les chaises, et puis après un moment donné, disparu. Il travaillait comme worshippers, et puis disparu. Intercesseur, évangéliste, et puis quand vous l'appelez, il a même changé de numéro, il ne vous a pas dit. Loyauté, loyauté. Une deuxième leçon, c'est personne n'est hors de portée de Dieu. Actes chapitre 10, 34 à 35, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Dieu est capable d'accepter ce que les hommes ont rejeté. Aucune histoire n'est trop sombre. Écoutez, aucune vie n'est trop chaotique. Aucune erreur n'est trop grande pour que nous ne puissions pas tomber dans les bras tendus de Dieu et lui permettre d'utiliser même ces choses-là pour sa gloire. Ça veut dire quoi, les amis ? Ça veut dire que vous et moi, tels que nous sommes là, nous avons deux grands commandements ou missions que Dieu nous a donnés. Il y a le commandement suprême et puis il y a l'ordre suprême. Le commandement suprême, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas une suggestion, une recommandation, c'est un commandement. Ça veut dire que nous devons l'appliquer, le mettre en application. Et puis, aimer ton prochain comme toi-même, autant que tu t'aimes, aime ton prochain. C'est pourquoi il faut apprendre à t'aimer également. C'est aussi, ça fait partie du commandement, apprends à t'aimer. Peu importe les erreurs que tu as commises dans le passé, apprends à t'aimer pour que tu saches aimer ton prochain. Mais l'ordre suprême, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Cet ordre suprême n'est pas seulement donné aux ministres qui travaillent à l'église, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Cet ordre suprême est adressé à tout disciple de Jésus-Christ. Nous avons lancé une mission, et la mission était une chaise pour... Les chaises sont là, maintenant on veut les âmes. Dieu a fait sa part. Il nous a amené ces chaises. Maintenant, notre part, c'est d'aller ouvrir la bouche et parler de Christ. Regardez, vous allez trouver que les personnes qui vous semblent les plus inaccessibles à l'Évangile peuvent être les personnes que Dieu attend à l'Église. Ça veut dire, celui qui se saoule du matin au soir, de lundi à dimanche, où tu dis, si je vais évangéliser, non, je préfère au moins à celui-là qui semble aimer au moins la lecture, lui peut, attention, celui-là peut être le choix de Dieu. Si tu parles de Saul de Tarse, il était non seulement loin de ce nouveau mouvement du christianisme, mais il était le persécuteur de l'Église de Christ. Ça veut dire que tous les disciples le regardaient en disant, lui, c'est fini, il va en enfer, c'est terminé, alors que Dieu avait un plan pour lui. C'est pourquoi je veux que Dieu puisse ouvrir les yeux de l'esprit de toutes les nouveautés, que nous commencions à voir autour de nous des pôles potentiels que Dieu veut convertir et amener à la conversion. Mais il ne le fera qu'à travers notre bouche. Les Moabites n'avaient pas droit de citer. Les Moabites n'étaient pas dans cette alliance. En d'autres termes, ils n'étaient pas considérés. Mais Dieu a posé son regard sur eux. Si c'est un oncle, si c'est une tante, un neveu, une nièce, un mari, quelqu'un du quartier, quelqu'un de ta classe, que tu te dis en tout cas, lui, jamais ne viendra au Seigneur, sache ceci, je faisais partie de cette catégorie, moi, ton pasteur, où tout le monde disait que quelqu'un peut se convertir, mais pas Camille. Camille, c'est pas possible. Il est trop loin, il est trop loin. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et s'il m'a étendu cette grâce, c'est qu'il peut étendre cette grâce ici dans la ville de Goma également. Ça veut dire que ces chaises-là que Dieu nous a données, c'est notre responsabilité de mettre un accent sur le discipolat. Ne viens plus jamais seul à l'église. Invite quelqu'un. Même celui qui te paraît, qui va certainement dire non, lance l'offre, lance l'invitation. Le Saint-Esprit est capable de toucher son cœur. Troisièmement, le plan de Dieu transcende les générations. Dans Ésaïe 46, verset 10, la Bible dit « J'annonce dès le commandement ceux dès le commencement, ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. J'exécuterai toute ma volonté. » Ça, c'est Dieu. Avant que la chose n'arrive, Dieu la connaissait déjà. Avant que cela puisse se produire, Dieu l'avait déjà ordonné. Avant que tu puisses même penser un jour au ministère, avant toutes ces choses-là que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, la Bible dit, Jérémie chapitre 1, « Non seulement je te connaissais, mais je t'avais établi, prophète des nations, tu ne savais encore rien. » Et retiens ceci, le plan de Dieu est immuable et il s'étend à travers toutes les générations. Les desseins de Dieu sont établis dès le début et continueront à être accomplis jusqu'à la fin. Le plan de Dieu ne se limite pas à la période ou à une génération spécifique, mais englobe toute l'histoire humaine. J'ai appris que pour les nouvelles élections parlementaires, vous savez combien de places il y a au Parlement ? 500 places. Dites-moi, est-ce que vous savez combien de candidats il y a pour ces quelques 5 malheureuses petites places au Parlement ? Hein ? Ok. En 2016, je crois, ou en 2011, je ne me souviens pas, il y avait 19 000 candidats. Cette fois-ci, il semblerait qu'on ait autour de 23 000 et plus candidats pour les 500 sièges. 23 000 candidats. Mais parmi eux, il y a des politiciens. C'est qui le politicien ? C'est celui qui pense à la prochaine élection. Mais nous voulons qu'ici, à un jour nouveau, nous puissions former, préparer et outiller des hommes d'État. Pourquoi ? Parce que l'homme d'État, ce n'est pas celui qui pense à la prochaine élection, c'est celui qui pense à la prochaine génération. Que Dieu fasse que des nouveautés qui se présentent puissent être élues et s'asseoir dans l'hémicycle du Parlement en train de planifier pour les générations futures. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un Dieu qui planifie pour les générations, qui prend des décisions non pas pour leur intérêt immédiat, égoïste, individuel et personnel, mais qui prennent des décisions pour la postérité. Des hommes qui, quand ils décideront, ils ne vont pas simplement décider d'améliorer le salon d'honneur. Qui entre dans le salon d'honneur ? Seulement ceux qui sont élevés. Ils ne vont pas simplement décider d'arranger les routes en ville. Qui conduit en ville ? Ceux qui sont nantis. Ils ne vont pas simplement décider d'avoir des grands supermarchés. Qui y entre ? Ceux qui ont les moyens. Mais nous voulons des hommes d'État. Des hommes d'État qui pensent à la prochaine génération. Qui, après avoir construit les routes en ville, vont aussi construire les routes dans les villages. Qui, après avoir fait le salon d'honneur, vont aussi améliorer le salon de l'aéroport où le commun des mortels y va. Qui ne vont pas simplement faire des grands supermarchés où les prix sont qui ne sont pas accessibles à tout le monde, mais qui vont améliorer même les conditions de vente dans les quartiers. Nous voulons des hommes d'État qui seront en mesure de nous procurer des infrastructures sanitaires qui en valent la peine. que quand tu vas à l'hôpital, tu sais vraiment que tu es parti pour te sentir mieux et non pas plus malade comme c'est le cas aujourd'hui. Des hôpitaux qui sentent tellement mauvais qu'après que tu sois entré, tu es plus malade que quand tu étais arrivé. Que Dieu puisse positionner ces hommes d'État. Et je prie que plusieurs d'entre eux sortent d'un jour nouveau. Et ces femmes d'État, s'il y a des candidates également. S'il y a des candidates. Quatrièmement, aucune erreur n'est trop grande pour la grâce de Dieu. Aucune erreur n'est trop grande pour la grâce de Dieu. Ésaïe 1, 18 dit, « Venez, plaidons !» C'est Dieu qui nous invite. « Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » La grâce de Dieu n'est pas limitée par nos erreurs passées ou nos échecs. Waouh ! Quelle bonne nouvelle ! Peu importe nos circonstances, Dieu peut les utiliser pour apporter rédemption et restauration. Première erreur, Élimélec quitte Bethléem. Dieu ne lui a pas dit, il est parti. Deuxième erreur, il s'y établit plutôt que de visiter. Troisième erreur, ses enfants se marient plutôt que de simplement quitter et de rentrer à Jérusalem. Et Ruth est en fait un résultat et une conséquence de ces erreurs de Élimélec et de Mahlon et de Naomi. Mais malgré ces erreurs, tu peux commettre une erreur, mais pour Dieu, toi, tu n'es pas une erreur. Ce que tu as fait pour Dieu n'est pas ce que tu es, parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et s'il t'a placé là, c'est avec un but et un objectif. La même Ruth qui aurait dû être écartée, Dieu a dit, je vais l'utiliser. Et d'ailleurs, à la fin de l'histoire, moi, le metteur en scène, je vais m'assurer que quand on cite la généalogie et la lignée de Jésus-Christ, Ruth, tu seras cité, ton nom sera cité. Si ton nom a été méprisé, laisse-moi t'annoncer ce matin que Dieu est capable de prendre ce même nom qui avait été rejeté et Dieu faire de ton nom un nom grand, un nom grand, un nom grand. Mes parents regardaient toujours, et quand ils regardaient leurs enfants, ils disaient, mon grand frère, ça va, mes petites sœurs, ça va, mais celui-ci, qu'est-ce qu'on a fait au ciel pour l'avoir? Ils se demandaient, mais ce petit fou ici, qu'est-ce qui va arriver? Mais voyez comment Dieu fait les choses. J'étais le seul enfant au chevet de mon père lorsqu'il a transitionné vers la gloire. Et Dieu me donne l'occasion aujourd'hui de faire venir ma mère ici et de montrer, tu vois ce que Dieu est en train de faire avec ton fils qu'on pensait complètement perdu. Dieu est capable de changer ton histoire et de donner un meilleur chapitre que tous les autres chapitres qui ont commencé. C'est ce qu'il a fait avec Ruth. Mais es-tu loyal? La grâce de Dieu est plus grande que les erreurs que tu as pu commettre. Demande pardon au Seigneur et avance. Ça ne veut pas dire que je vous ai donné la permission de faire des erreurs. J'ai dit simplement qu'au moment où je parle, les erreurs que tu as commises, Dieu est capable de les utiliser même pour sa gloire. Demande pardon, répands-toi, ne reste pas dans la boue. 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Es-tu juste? Es-tu loyal? Relève-toi. Cinquièmement, ne laisse pas la douleur t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas la douleur t'éloigner de Dieu. Ésaïe 41:10, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne laisse pas la douleur, la misère, les malheurs t'éloigner de Dieu. Nous avons malheureusement affaire à une nouvelle génération de chrétiens qui louent Dieu quand tout va bien et qui se lamentent quand tout va mal. Alors que la vraie louange, c'est le sacrifice de nos lèvres. C'est ça, la vraie louange. C'est-à-dire que c'est quand on te jette dans la fournaise ardente qu'il faut louer le Seigneur. C'est quand on te met dans la prison comme Paul et Silas, Actes chapitre 16, où tu as toutes les raisons de te plaindre et dire, « Mon Dieu, où es-tu? Tu m'as abandonné. » C'est là qu'il faut louer le Seigneur. C'est là qu'il faut avoir la loyauté de rendre la gloire au Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Et je ne peux pas comparer tes difficultés aux miennes. C'est tout à fait différent. Je ne sais pas quel tunnel dans lequel tu es. Je sais seulement que quand je te parle de Ruth, je te parle de quelqu'un qui avait tout perdu. Et malgré qu'elle a tout perdu, elle est restée loyale vis-à-vis du Dieu de son feu mari, du Dieu de sa belle-mère. Les problèmes d'aujourd'hui ne sont que des excuses de Dieu pour te montrer sa gloire. Ça veut dire que chaque fois qu'une adversité t'arrive, Dieu est en train de cacher sa gloire derrière. Chaque fois qu'une adversité t'arrive, comme Job, Dieu est en train de préparer un témoignage plus grand que celui que tu connaissais. Et je prie que quelqu'un puisse déclarer comme Job à la fin de cette situation, « Mais je te connaissais ou j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mon expérience avec toi est différente. » Que ceci soit le partage de quelqu'un ce matin. Sixièmement, Dieu peut et utilise tout le monde. 1 Corinthiens 1:27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Lorsque Dieu vous choisit, peu importe qui d'autre vous rejette ou vous néglige, la faveur de Dieu l'emporte sur toute opposition. La faveur de Dieu l'emporte sur toute opposition. C'est pourquoi ne néglige jamais personne, ne minimise jamais personne. Mais retiens ceci, Dieu peut t'attacher à une personne, tout comme il peut t'attacher à une mission, tout comme il peut t'attacher à une vision. Regarde, Josué était attaché à Moïse. La mission de Josué était de servir Moïse. Dieu ne lui a pas dit un jour, tu vas être le grand premier ministre de ce pays, tu seras le premier, tu seras à la tête, c'est toi qui vas conduire le peuple. Dieu lui a simplement dit, tu t'attaches à Moïse. Et je dis souvent à ceux d'entre nous qui sommes des mentors, nous avons des disciples, faites attention aux disciples qui cherchent ce qu'il y a dans ta main. Beaucoup me demandent de l'argent, aide-nous avec 5 dollars, aide-nous avec ceci, aide-nous avec cela. Mais très peu s'attachent à ce qu'il y a dans mon cœur. Très peu. À un moment donné, Jésus a fait la multiplication du pain. Et les foules l'ont suivi le lendemain. Et Jésus leur a regardé, il les a regardés, il a dit simplement, « Je sais pourquoi vous me suivez. » Est-ce que tu es ici à cause du pain? Est-ce que tu es ici parce que tu attends une rémunération, une compensation? Et Jésus, les connaissant, à un moment donné, il donne un enseignement. Il parle même de manger sa chair. Et 70 de ses disciples disparaissent. Ils s'enfuient, ils disent non, ça c'est trop fort. Et il pose la question, il se retourne vers Pierre et les autres. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Et voilà la réponse de Pierre. À qui irions-nous? C'est toi qui as quoi? Naomi, ne me presse pas de m'éloigner de toi. Là où tu iras, là où tu demeureras, et ton Dieu sera mon Dieu. Aujourd'hui, je peux honnêtement dire et humblement dire que mon père spirituel qui m'a formé, qui est décédé depuis plusieurs années, je lui suis resté fidèle. Je lui suis resté loyal. Il ne pouvait rien me donner matériellement. Il était plus pauvre que moi. Lui est décédé. Son épouse est décédée. Et ils ont laissé un enfant dont mon épouse et moi sommes le parrain, Josué. Cette semaine encore, j'ai appelé Josué pour savoir comment tu vas, comment ça se passe, pourquoi la loyauté que j'ai à son père qui m'a formé. Trouvons-nous encore des hommes et des femmes loyaux à l'Église? En fait, c'est très simple. Au moment où les cultes sont terminés, regardez ceux qui restent pour arranger les chaises. Au moment où il faut venir très tôt le matin pour préparer les activités à l'église, regardez ceux qui sont là. Au moment où il faut croître spirituellement, regardez le mercredi, regardez le vendredi. Ruth, où tu iras? J'irai. Les disciples qui iront loin autour de toi, que tu dois former, sont les disciples qui cherchent ce qu'il y a dans ton cœur. Qui cherchent ce qu'il y a dans ton cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci. Avec Dieu, il dit il y a un ordre des choses. Même avec moi, Dieu. En fait, moi, Dieu, je suis prêt à vous donner tout ce que vous voulez. D'ailleurs, j'en ai la capacité. Je peux le faire à n'importe quel moment. Et il n'y a rien qui est hors limite pour moi que je peux vous donner. Mais il dit ceci. Recherchez premièrement... Recherchez premièrement
Pasteur, blocage, rien ne marche, rien ne va.
Qu'est-ce que tu fais au fait pour Dieu?
Non. La semaine, je n'ai pas le temps de venir. Je n'ai pas vraiment le temps de servir.
Okay. Donc nous qui servons, c'est parce qu'on n'a rien à faire. Mais Dieu ne te demande pas nécessairement d'être ici à l'église. Depuis que tu es au travail où tu es, est-ce qu'il y a même une petite cellule qui se réunit? Est-ce que tu es en train de conduire les gens même au Seigneur, même là où tu es? Dans ta maison, il y a même un culte familial?
Moi, le Seigneur m'a abandonné, il ne pense pas à moi, il ne me donne rien. Moi, votre Dieu, là, il a choisi les gens.
Recherchez premièrement. Et Dieu dit, toutes ces choses-là.
Et il arrive des fois que Dieu attende et patiente avant de donner quelque chose à quelqu'un parce que la chose qu'il peut lui donner risque de l'éloigner de Dieu.
Combien n'ont pas eu le mariage et le mariage a été une raison de ne plus servir le Seigneur?
Combien ont eu des biens matériels et parce qu'ils ont les biens matériels, ils trouvent les pasteurs de l'église sont maintenant trop bas.
Ils ne peuvent plus se réunir avec les mêmes frères et les mêmes sœurs. Ils doivent chercher maintenant un milieu où les gens sont distingués, où les gens ne prient plus, les gens ne rient plus en swahili, les gens maintenant commencent à rire en français. Donc ils changent de milieu. Pourquoi? Je suis en haut, mais même Dieu dit, recherchez premièrement mon royaume. Et Ruth s'attache à un Dieu qui a prouvé qu'il n'était pas là.
S'il est Dieu, pourquoi n'a-t-il pas empêché la mort de mon mari et de mon beau-père? S'il est Dieu, pourquoi ne m'a-t-il pas béni matériellement et financièrement? Ma belle-mère est dans une terre étrangère, la pauvre.
Mais pour Dieu, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Je vais continuer cet enseignement le dimanche prochain, mais je termine avec cette dernière leçon. La loyauté, non négociable pour une vie chrétienne victorieuse. Pasteur André, que vous voyez ici, depuis la première année où nous sommes venus à Goma, ça fait 18 ans, 2005, je ne savais pas ce que Dieu a mis dans son cœur. Mais là où j'étais, Pasteur André était là. D'ailleurs, c'était André. Des fois, il me rappelait un peu moi. Sa corpulence, c'était moi à l'époque. Études bibliques, il est là. Formation des disciples, il est là. À un moment donné, il fallait commencer à mettre sur pied le ministère Génération Espoir des enfants. Il l'a fait. L'académie de leadership commençait à tanker. Il y avait un problème. Il a repris ça, il l'a remis sur les rails. Ça a continué à fonctionner. Lui-même, dans sa famille, méprisé, négligé, et on pensait qu'il était abandonné, qu'il n'arriverait jamais à rien. Mais chaque fois que j'avais besoin d'un disciple, je pouvais me retourner. André est là. André est là. André est là. Et je vous assure, ce que je vous dis, c'est devant témoin, Dieu, devant son peuple. Je ne l'ai jamais entendu réclamer quoi que ce soit. Jamais. Jamais.
Ah, ça fait longtemps que je suis avec toi. Maintenant, tu peux me donner... Maintenant, tu peux me faire voyager. Maintenant, jamais réclamer quoi que ce soit, réclamer comme un droit, quoi que ce soit, rien.
Mais quand j'ai dû choisir le responsable de l'organisation Un Jour Nouveau, avant, j'étais à la fois PDG et PCA, en même temps, la même personne, président, fondateur et CEO en même temps. Et on a dit, non, papa, en leadership, on ne fait pas ça. En leadership, il n'y a pas de succès sans successeur. Il faut avoir un successeur pour montrer que tu as réussi. Vous pensez que j'ai réfléchi beaucoup pour savoir qui est-ce que j'allais placer? Quand on vérifie certains comptes dont lui, il est responsable, clair, vert, pas de vol, pas de détournement, pas de malice. Est-ce que vous pensez que j'ai réfléchi? Permettez-moi de vous présenter le directeur pays de l'organisation Un Jour Nouveau. Directeur pays. Septièmement, et je termine, je continuerai dimanche prochain. Dieu utilise les petites choses. Dieu utilise les petites choses. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.
Si vous faites les petites choses comme si elles étaient de grandes choses, Dieu fera les grandes choses comme si elles étaient de petites choses. Si vous faites les petites choses comme si c'était de grandes choses, moi je voulais être un homme important. Le pasteur me dit que je dois venir balayer l'église. Oh ! N'est-ce pas ce que Joseph faisait chez Potiphar ? C'est cette chose inutile qui l'a rendu à la primature. Dieu observe comment tu fais les petites choses avant de te confier les grandes choses. S'il vous plaît, allez dans ma voiture, ouvrez le coffre et prenez, il y a quelque chose qui est dans le coffre, amenez-le, je vais terminer. Pendant que vous êtes là, vous avez des défis, vous avez des difficultés, vous avez des situations malencontreuses comme Ruth, et il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un qui se lamente. Mais Dieu dit, même là-dedans, ne t'inquiète pas. Parce que Ruth va rencontrer Boaz. Boaz est un riche entrepreneur. Et Boaz va prendre Ruth en mariage. Et celle qui était maudite hier a été appelée bénie. Et la preuve est que la fin de l'histoire, le metteur en scène, a fait en sorte que la fin de l'histoire soit meilleure que le commencement de l'histoire. Que ceci soit ton partage également. Que ta fin soit meilleure que ton commencement. Il y a un jeune garçon que j'ai observé depuis un moment. On est en contact même sur WhatsApp, on s'écrit de temps en temps. Et il m'a fait part de certaines situations qu'il traversait. Je lui ai appris que ce n'est pas dans l'ordre de Dieu de demander à ton pasteur de t'aider financièrement. Non, la Bible dit dans Galates 6:6. Que celui qui est, à qui l'on enseigne, celui à qui on enseigne, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc celui qui doit me donner ses biens, c'est qui ? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je lui ai fait comprendre, ce n'est pas normal, c'est pas normal. Mais par contre, il arrive que Dieu me place à sa position, d'observer la loyauté des gens et de me dire, et Dieu me dit des fois, celui-ci, même s'il ne t'a rien demandé, récompense sa loyauté. Et ce jeune garçon, à un moment donné, je lui posais quelques questions et je disais, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Et il dira, non, voilà. Il m'a montré une image un jour et il m'a dit, en tout cas, pasteur, s'il te plaît, si tu veux prier avec moi, que le Seigneur puisse me bénir avec un outil comme celui-ci, parce que je voudrais continuer à servir le Seigneur avec cet outil. Je vais servir le Seigneur. Alors, je lui ai dit, fils, ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi et je vais prier avec toi, sans rien lui dire. Et évidemment, il ne sait pas ce qui pourrait arriver, mais j'ai continué à l'observer et à voir sa fidélité et sa loyauté. Il pourrait aller vendre ses services ailleurs, parce que c'est un musicien de talent. Il pourrait très bien choisir une autre église. Beaucoup ont quitté cette église, d'ailleurs. Mais il est resté là. Est-ce que c'est moi ? Non, c'est Dieu. Alors ceci n'est qu'un symbole de ce que Dieu va faire dans ta vie. Et je voudrais que, Jérémy, tu puisses venir prendre ceci. C'est quelle marque ? C'est quelle marque ? C'est quelle marque ? Lis un peu. Lis d'abord. Fender. Allez chercher les marques Fender. Si les marques Fender ne servent à rien, ou si ça n'a absolument aucune valeur. La loyauté. La loyauté. La loyauté. Pourquoi je sers le Seigneur ? Qu'est-ce que j'attends de Dieu ? Fermons nos yeux, baissons nos têtes dans la prière. Seigneur, tu m'as abandonné. Mon beau-père est mort. Mon mari est mort. Ma belle-mère n'a rien. Et puis maintenant, je vais dans une terre étrangère. Mais quel est le gain de te servir, Dieu ? S'il y a quelqu'un qui se pose ces questions, lève ta main là où tu es, je vais prier avec toi et pour toi. Tu traverses des circonstances douloureuses, difficiles. Même les membres de famille ne comprennent pas ta cause. Lève la main là où tu es, je vais prier avec toi et pour toi. Et il t'est arrivé même de te demander, est-ce que vraiment Dieu se souvient encore de mon cas et de ma situation? Ou tu peux être comme cette jeune sœur, un jour qui m'a dit, à quoi ça sert, pasteur, de me préserver pur? Mes amis qui se corrompent ont des jobs, ont de l'emploi, on leur donne même des maisons, des voitures, des villas. Pourquoi est-ce que moi je ne vendrais pas mon corps comme elle? Si tu es là également, lève ta main, je vais prier pour toi et avec toi. Baisse ta main. Et je voudrais appeler quelqu'un qui est peut-être à Moab. Tu es peut-être Ruth. Tu n'avais pas droit de citer. En fait, toi là, comme tu n'es même pas juif ou juive, Dieu n'a rien prévu pour toi. Parce qu'il faut entrer dans l'alliance pour recevoir les bénéfices de l'alliance. Et ce matin, en entendant ces paroles, tu as décidé de donner ta vie à Jésus et de faire Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pour la première fois que tu vas prendre cette décision. Si tu es là, j'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Je vais prier avec toi et je vais prier pour toi. La décision la plus importante de ta vie, là où tu es. Lève la main, je te vois, ma sœur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je te vois également à ma gauche. Que Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Au balcon, y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Gloire au Seigneur. Je te vois également au balcon à ma gauche. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aujourd'hui voudrait faire alliance avec le Dieu metteur en scène qui domine sur l'histoire de l'humanité? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Père, je viens auprès de toi avec mes bien-aimés ici présents. Vois la douleur, vois le malheur, vois la misère, vois l'inquiétude, vois la peur, vois éternel le sentiment d'abandon, le sentiment de perte, de confusion. Regarde la dépression, Seigneur, et agis, interviens. Amen, éternel Dieu de gloire. Non seulement une nouvelle ère de paix, mais une nouvelle ère de repos, mais une nouvelle ère de loyauté. Seigneur, fais des nouveautés, des gens pleins de loyauté, qui s'attachent à toi, à ta cause, à ta mission, et que si tu les as attachés à un homme ou à une femme, qu'ils soient fidèles sans rien attendre en particulier, mais sachant que toi, tu récompenses toujours. Seigneur, je prie que tu penses les blessures. Il y a des blessures, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des interrogations. Parmi eux, il y a des gens qui disent, mais Seigneur, je t'ai servi, jusque-là, je ne vois toujours rien. Il y a aussi ceux-là. Père, je sais que c'est une question de temps et leur conclusion sera meilleure que leur introduction. Et que le Seigneur vous accorde faveur et grâce. Au nom de Jésus.